RLC, Alain Marchal, Olivier Truchot et les Grandes Gueules.
C'est Michel Godet qui est avec nous. Michel Godet, il est professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers. Il est le fondateur du Cercle des Entrepreneurs du Futur. Avec Alain Lebaube et Philippe Rath, un normalien, un ancien journaliste du Monde, ils ont fait le tour de France des bonnes nouvelles.
Oh oui, il est gonflé, Michel Godet, bonjour. Il est gonflé parce que dans un pays aux 3 millions de chômeurs, à la croissance atone, au déficit, il arrive avec son livre La France des bonnes nouvelles. Mais il y a des bonnes nouvelles à donner, à dire en France?
D'abord, il y a une première remarque de bon sens, c'est que écrire la France des mauvaises nouvelles, c'était beaucoup plus dur et beaucoup plus long, hein, et donc c'était plus court de parler de la France des bonnes nouvelles.
Mais c'est quoi la France des bonnes nouvelles? Ce sont les entreprises qui marchent, les initiatives qui fonctionnent?
D'abord, c'est la suite de bonnes nouvelles des conspirateurs du futur que j'avais sorti en 2011 pour montrer une chose que je montre à nouveau par un tas d'autres exemples, c'est que la France d'en haut va mal, hein, celle qui regarde la France à la jumelle, vous savez, et qui prend des décisions à Bercy, dans les limites intérieures du périphérique, mais celle d'en bas, qui entreprend et innove, va bien. Et par un tas d'exemples que je montre, eh bien, on peut dire que la réalité du terrain dépasse la fiction des idées. On rêve de quelque chose, ça existe déjà quelque part. Vous rêvez, par exemple, de résoudre les problèmes de l'emploi aujourd'hui. Ils vont naturellement pas me demander au gouvernement ce qu'il faudrait faire, puisqu'à chaque fois qu'ils m'ont demandé, ils l'ont pas fait. Bon, donc, éventuellement, j'irai encore répéter ce qu'il faut faire, et surtout ce qu'il faut pas faire. Faut arrêter de penser d'en haut, d'appliquer des choses qui ne marchent pas, alors qu'il faut tout simplement regarder ce qui pousse sur le terrain. Et je vous donnais un exemple qui est évoqué, avec Pierre Choux, hein, comme on dit, du côté de Dijon. C'est Rebsamen qui connaît bien ça, d'ailleurs. C'est quelqu'un qui est...
Sénateur socialiste, sénateur maire de Dijon.
Maire de Dijon, oui, qui d'ailleurs est pour le maintien du cumul des mandats. Au moins pour lui. Donc il est encore vivant.
C'est quoi cet exemple, alors?
Eh bien, l'exemple, c'est Pierre Choux. C'est un ancien animateur de rue, un curé de gauche, qui s'est rendu compte que les loubards de l'époque, parce qu'il a plus de 60 balais maintenant, lui aussi, un peu comme moi, et les loubards de l'époque, ils voulaient remettre au boulot, ils n'y allaient pas parce que ils refusaient l'autorité. Ben, il s'est dit, le meilleur moyen qu'ils s'en mettent à travailler, c'est que je les accompagne dans le boulot. Et donc, il est devenu, petit à petit, sans s'en rendre compte, entrepreneur. Entrepreneur pour l'insertion. Il est adhérent au MEDEF. Il remet sur les rails, on peut dire, en selle de l'emploi, des gens qui sont envoyés par Pôle emploi avec un tampon quasiment inemployable. En disant, on ne sait pas comment on s'en sort. Celui-là, on ne peut rien faire. On vous l'envoie, vous voyez ce que vous pouvez faire. Il en prend 1000 comme ça par an, dans les métiers. Alors, c'est pas les métiers, dans les mairies, vous savez, les emplois jeunes, là, comment on va faire, où ils vont voir l'absentéisme des autres, ils auront l'impression que le boulot, c'est arriver à 9h30 du matin, prendre un petit café, donner quelques coups de fil et pas se salir les mains. Bon, c'est des métiers, des emplois verts, hein, du tri, c'est des métiers difficiles, de déménageurs, des métiers aussi de peintres, etc. Et il prend 1000 personnes, équivalent temps plein, qui remet en selle, avec un accompagnement des choses. Ça coûte 6 000 € par emploi marchand créé. Mais ça rapporte au bout d'un an deux fois plus que ça a coûté à la collectivité. Donc on sait ce qu'il faut faire. Il est dans 21 départements. Il demande qu'une chose, c'est, il a essayé sous la droite comme sous la gauche depuis 20 ans, à démultiplier son truc, à lui donner une visibilité, une ampleur nationale, il n'a jamais réussi. Pourquoi? Parce que les dizaines de milliards d'euros qui vont à la formation, qui vont à l'insertion, qui vont finalement à la lutte contre le chômage, ils sont accaparés par des apparatchiks, par des officines, par des partenaires, comme on dit, sociaux ou autres, et qui finalement, un gruyère, il ne va pas le lâcher.
Donc la démonstration est faite dans ce livre, c'est que les problèmes de la France ne viennent pas de la France d'en bas, mais de la France d'en haut, d'élite politique, économique, qui verrouillent tout, qui finalement sont des conservateurs et qui contraignent la France.
Mais j'allais dire que c'est pas de leur faute. Ils veulent bien faire, mais ils savent pas faire. Quand vous voyez combien de ministres aujourd'hui au gouvernement ont une expérience de l'entreprise et du secteur privé.
Très peu.
Il y en a un ou deux peut-être.
Bon. Sur 34.
Il y a Cahuzac éventuellement. Bon, et encore, c'est du libéral.
Oui, il était chirurgien. Oui.
Oui, mais d'accord, chirurgien. Il a même fait fortune. Donc, c'est pas un mauvais exemple de ce point de vue-là. Ce qui m'étonne, c'est que d'ailleurs, il a envie de sanctionner lui-même, puisqu'il est pour augmenter l'ISF. Mais ça, c'est une autre affaire. C'est plutôt rigolo. Hein. Donc le message qu'il faut retenir de tout ça, il est dans une autre histoire que je raconte. Il y a un gars que j'évoque, que je fais parler, parce qu'on raconte ça se lit comme une série de bonnes nouvelles. Hein.
Et, c'est des rencontres.
Un gars qui s'appelle Alain Fribourg, qui est un redresseur d'entreprise. Et il avait fait, on lui avait d'ailleurs donné le prix d'impertinence au Cercle des Entrepreneurs, et il expliquait qu'il n'y a pas d'entreprise mûre, il n'y a que des patrons blettes. Quand une entreprise est en difficulté, on applique ça aussi à la fonction publique, ou aux hôpitaux, ou partout, ou l'école, c'est qu'il y a un déficit de management. Vous mettez des bons dirigeants, et vous les laissez faire, des gens qui ont la compétence, eh bien, ils vous transforment les choses et ils font des miracles.
Ah oui, enfin, on dit aussi que le problème de la France, par exemple, et ça a été une grande discussion ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est le coût du travail. Voilà, ça coûte trop cher le travail en France, et c'est ça qui plombe notre compétitivité.
Voilà, oui, mais alors là, on peut plus rien dire puisque le président de la République a dit que le coût du travail en France n'était pas plus élevé qu'en Allemagne. Bon, donc on peut plus dire qu'il y a des chiffres. Vous savez, c'est comme les gars qui disaient la Terre elle est ronde et elle tourne, et pourtant elle tourne. Ben on peut plus rien dire parce que le président a dit. Mais pourtant là, les chiffres sont là, ils sont têtus, ils fournis par Eurostat notamment. Le coût du travail en France depuis 10 ans, qui était il y a 10 ans 10% inférieur à celui de l'Allemagne, le coût horaire, hein, c'est ça qui compte, le coût par heure. Hein. Et aujourd'hui, pour l'industrie, il est devenu 5% plus élevé, et pour les services, il est devenu 20% plus élevé. Bon, eh bien, face à cela, puisque vous savez, quand on vend un bien industriel, ça incorpore des services, ça explique qu'on est moins compétitif. Et pourquoi on est moins compétitif? Personne ne l'a dit dans la campagne, ni à droite ni à gauche, d'ailleurs, il faut bien le dire, c'est qu'on on travaille pas assez dans ce pays. Et ceux qui travaillent, travaillent trop, mais globalement, par habitant, le nombre d'heures travaillées est le plus faible de la zone OCDE. Voilà.
Tout repose sur ceux qui travaillent déjà, en fait.
Il n'y a pas besoin d'avoir été aux écoles bien longtemps.
D'où la bonne productivité, parce qu'on dit qu'il y a une bonne productivité en France.
Ah là là, camarade, va falloir le recycler lui aussi. Hein. Parce que la productivité, on oublie de dire que c'est la productivité apparente du travail. On la mesure, c'est la valeur ajoutée par actif, par heure de travail. Et donc, nos actifs sont pas nombreux, on garde que ceux qui courent le plus vite. Hein. Et donc, on a l'impression que la vitesse moyenne est très élevée. Oui, mais il y en a beaucoup qui courent pas. Ce qui compte pour la richesse créée, c'est la distance totale parcourue par tous ceux qui courent. Bon, donc faut pas éliminer des gens. Au contraire, faut avoir un système.
Faut plus de monde au travail.
Ben plus de monde au travail, et notamment.
Mais comment on fait?
Une chose qui, ben, le temps partiel, par exemple. Hein. Et aujourd'hui, des pays, la mondialisation qui sert de bouc émissaire et tout ce dont on parle, la finance et tout ça, je veux bien, il y a des progrès à faire. Mais on va pas changer le monde du jour au lendemain.
Enfin, le temps magique. Partiel, mais on ne vit pas avec le temps partiel.
Aux Pays-Bas, hein, le taux de chômage aujourd'hui, c'est 5%. Dans la Flandre belge, c'est 3,5%. En France même, c'est ce que je montre dans le livre, hein, je rappelle, il y a des territoires où c'est 5%. Donc c'est possible, à condition naturellement qu'on permette, qu'on donne les conditions favorables au développement des activités et de l'emploi. Or malheureusement, hein, vous l'avez compris, je prenais ma parabole toujours de la cigale et de la fourmi, hein, l'intérêt bien compris des cigales, c'est qu'il y ait le maximum de fourmis actives. Plus les fourmis s'activent, mieux les cigales vivent. Or qu'est-ce qu'on vient de faire aujourd'hui? On vient de supprimer les heures sup. Hein, non imposable. Oui. Eh oui. D'ailleurs, c'est une proposition dont j'étais à l'origine. Donc, je suis pas content. Moi, j'étais pas content non plus avec Sarko parce qu'il avait exonéré de charges. Moi, j'aurais voulu qu'on les charge. Mais le gars qui travaille plus de 35 heures, eh bien, il n'y a pas de raison qu'il soit imposé plus que le gars qui travaille que 35 heures. Donc, je laisse les gens aux 35 heures. Il y a un droit acquis, comme on dit. Mais n'empêchons pas ceux qui veulent travailler plus de le faire. Or, on va les dissuader et on va appauvrir aujourd'hui 9 millions de personnes.
Deux nouvelles qui viennent d'arriver ce matin, justement, à propos au ministère du Travail, où on dit, à propos des négociations qui vont être entamées sur l'emploi, on veut faire en sorte que le CDI redevienne la norme. C'est-à-dire le CDI, le contrat à durée indéterminée, et que dans le cadre des licenciements collectifs, donner un droit de regard au ministère du Travail. Michel Godet, ça vient d'arriver.
Vous savez, la France était, on disait dans le temps, un modèle soviétique réussi. Donc on peut essayer de le faire échouer, ce modèle soviétique. Bon, je crois que dès qu'on fait intervenir le ministère, comme on dit, du travail, hein, on a l'impression, le soviet suprême, presque on entend, hein, sur des questions qui ne sont pas de son sort, on va créer plus d'effets pervers que d'effets vertueux. Bon, donc il ne s'agit pas. Alors ceci dit, le CDI, moi je suis pour, depuis longtemps.
Un contrat unique.
Je suis pour le contrat unique, j'ai été même, soyons clairs, au nom de l'égalité de traitement des citoyens, comme en Suède, il faut que tous les travailleurs aient une protection sociale, aient un contrat à durée indéterminée, et je vous fais remarquer au passage qu'un contrat à durée indéterminée, c'est beaucoup plus fragile qu'un contrat à durée déterminée. Parce qu'un contrat à durée déterminée, pendant, vous avez quelqu'un pour 18 mois, vous n'avez pas le droit de foutre dehors pendant 18 mois.
Alors que
le contrat indéterminé, vous avez un coude, séparation, c'est comme dans un divorce. Bon. Et simplement, en Suède, la conclusion de ça, au nom de l'égalité de traitement des citoyens, ce que j'avais proposé, moi, dans la campagne présidentielle, c'est pour ça qu'on ne m'a pas écouté, qu'on m'a même rayé des médias. Hein, parce que je disais des choses qu'il ne fallait pas entendre, sans doute. Eh bien, à ce moment-là, on supprime le statut de la fonction publique. Faut pas confondre service
ça,
public.
C'est un tabou.
C'est un tabou, mais bien sûr. Et en plus, on n'y touche pas.
Parce qu'il y a un argument quand même qui est avancé, notamment pour les policiers. Par exemple, je prends cet exemple-là. Ça les protège aussi de corruption. Voilà, ce statut-là est aussi protecteur pour des gens qui ont une fonction quand même particulière.
Oui, mais d'accord. Pour les fonctions régaliennes, on est bien d'accord. Mais moi, je crois que pour tout ce qui est... Pourquoi est-ce qu'on a des policiers et des gendarmes? Moi, je ne ferai que des gendarmes. Parce que quand on est au service de la sécurité, on ne devrait pas avoir le droit de grève. Ni le droit de manifester, mais en contrepartie, on a des avantages, des compensations qui font qu'on est mieux payé, qu'on est logé, etc. Hein. Donc là, on a chez nous des problèmes sur lesquels on n'a pas voulu trancher entre police et gendarmerie.
Hein. Mais un prof, par exemple, n'a plus besoin d'avoir un statut de fonctionnaire.
Ah ben moi je peux en témoigner. Je viens du privé historiquement. J'ai commencé ma carrière dans le privé. Ensuite j'ai été fonctionnaire européen et j'aurais jamais dû quitter d'ailleurs parce que je serais déjà à la retraite et j'aurais à peu près 10 000 euros net d'impôt par mois de retraite. Hein, parce que ça on le dit pas, les gens sont injustes, les inégalités dont on profite pas. Moi j'ai préféré retrouver le risque et je me suis retrouvé professeur associé. Bon et puis à un moment donné c'était la gauche à l'époque au pouvoir. Ils ont dit on veut plus d'associés, plus précaires dans l'enseignement supérieur. Et donc il a fallu qu'il y ait eu un concours pour que je sois titularisé. Donc finalement, j'ai trouvé un avantage. C'est que quand on est titulaire, eh bien, on est moins obligé de fermer sa gueule en tant que professeur que lorsqu'on est renouvelé tous les ans.
Donc ça, c'est un avantage.
Oui, mais malheureusement, beaucoup de collègues sont titulaires, hein, mais sont des finalement, ils la ferment parce qu'ils sont. Eh oui.
Mais le courage ne dépend pas du statut.
Ils disent pas tout haut ce qu'ils pensent tout bas.
Un mot quand même sur les 75%, parce que c'est le débat aussi ce matin. Peut-être que Hollande va revoir la copie, rendre moins douloureux pour ceux qui ont beaucoup d'argent ces 75% sur 1 million.
Ben, surtout, moi je crois que ce qui est pas bien, c'est d'exclure les artistes. Quand un chef d'entreprise, on peut penser qu'il y a un prix international du chef d'entreprise, donc si on le fait pas, ils vont se délocaliser. Mais que nos artistes se délocalisent, eh bien ceux qui chantent en français, je les vois mal chanter en espagnol ou en anglais.
Allez, vous restez avec nous, Michel Godet, parce qu'on va parler encore de cette France des bonnes nouvelles, des bonnes expériences, de ce qui marche au plan économique. Et puis, on vous fera écouter 3 déclarations que vous aurez tout le loisir de commenter. On va reprendre votre fiche de renseignement. Vous connaissez le système, ici dans les GG, on vérifie toujours.
Je me souviens plus, à chaque fois on me demande des trucs.
On va vous demandez vos dates et lieux de naissance.
9 avril 1948 à Tours.
On va vous redemander votre situation de famille.
Ah, je suis marié et j'ai 4 enfants.
On va vous redemander vos revenus.
Mes revenus ? Mais je veux bien si vous me donnez les vôtres.
Bah, si vous voulez, donnez-moi les vôtres d'abord.
Ah non, mais c'est moi qui ai posé la question.
Non, c'est nous qui posons la question ici.
Alors,
c'est bon revenu.
Ah ben revenus, je suis un professeur en classe exceptionnelle au conservatoire en fin de carrière, donc c'est complètement bien connu. Je suis à 4700 euros par mois.
Vous n'êtes pas encore à la retraite ?
Je suis au bord de la retraite, je pourrais rester jusqu'à 68 ans, mais je me suis arrangé, entre guillemets, pour faire en sorte que mon successeur soit élu, qui vient d'être fait, pour préparer l'avenir, en quelque sorte, pas dire après moi le déluge, et je vais m'en aller dans 2 ans maximum.
Est-ce qu'il faudrait
Non, vous n'avez pas répondu à ma question.
15 000.
15 000, ben voilà. Ouais. Donc j'ai
radio et télé.
J'aimerais bien
les
changer
deux cumulés.
Oui,
les deux cumulés. Radio et télé.
Non, mais c'est bien. C'est normal d'ailleurs. Je trouve pas ça assez indécent. Hein, et moi aussi, naturellement, je fais des conférences et j'ai droit d'auteur.
Voilà.
Mais je ne suis pas payé.
Vous ne me les avez pas donné.
Non, mais vous ne me les avez pas
demandé. Ah, il est fort.
Non, mais t'aurais pas dû répondre. En plus, c'est qu'à l'aise, chaque fois avoir.
Mais moi, parce que je suis transparent.
Mais non, mais je suis transparent.
Mais non, vous n'êtes pas transparent, vous n'avez pas tout dit.
Puis tu me dis, mais c'est pas tout. Je vais écouter, soyons clairs. J'arrive dans les meilleures années, dans le passé. Hein, et comme j'ai 3 enfants en études supérieures, j'arrive à faire 30 ou 40% de plus.
Ah bah c'est
ce qu'on a dit. Mmh. Très bien. Mmh. Mais c'est du boulot.
Ouais.
Hein, et c'est des 70 heures par semaine. Bon. Donc, et en plus, ça compte pas pour la retraite. Bon. Donc, je suis de vue là. C'est pour ça que je continue 2 ans, parce que j'ai encore des enfants. Et puis, j'ai du plaisir.
C'est le principal. Allez, Michel Godet, vous restez avec nous. C'est l'heure des GG. Et c'est le démographe Michel Godet qui est là avec son livre sur la France des bonnes nouvelles aux éditions Odile Jacob.